Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On s'en va au Centre Bell parce qu'il y a un lancement ce soir. C'est le lancement du livre, disons, qui fait le plus jaser ces jours-ci. C'est le livre de Pierre Gervais, qui est l'ex-gérant de l'équipement chez le Canadien de Montréal. On s'attendait à un livre, disons, un petit peu plein de lieux communs, des souvenirs consensuels. Non, M. Gervais, disons, passe la zambonie sur certains individus, on va dire ça comme ça. On va aller rejoindre Pierre Gervais et aussi notre camarade Mario Langlois qui anime son émission en direct de ce lancement ce soir, les amateurs de sport. Salut, messieurs!
Salut, Patrick.
Donc, Pierre Gervais, je vais commencer avec vous. Merci d'être avec nous. Écoutez, Pierre, j'ai lu là, les extraits qui ont été publiés dans les médias aujourd'hui. Écoutez, on va dire ça comme ça, vous réarrangez le portrait de Marc Bergevin, Dominique Ducharme, Max Pacioretty. Avez-vous peur de froisser le club et les joueurs que vous avez côtoyés au fil des années?
Pas du tout. Honnêtement, j'ai des vraies affaires. Je vois pas dans le personnel. Loin de là, j'aurais pu aller bien plus mine que ça. Je parle de Marc, de Dominique Ducharme, puis comme je dis, j'ai dit les vraies affaires, c'est tout.
Est-ce que quand vous avez coécrit ce livre-là avec Mathias Brunet, là, est-ce que Mathias a dû vous convaincre d'aller très très loin dans les souvenirs ou c'était votre désir quand vous avez commencé le projet?
Non, c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Quand j'ai rencontré Mathias Brunet, au mois de mai, l'an passé, après ma dernière saison, Mathias, on a jasé ensemble, puis il m'a dit, regarde, moi, je veux pas une biographie de toi, puis je veux pas un petit livre à l'eau de rose, puis moi, c'était la même chose. Je veux pas une biographie de moi du tout, puis je veux pas un petit livre à l'eau de rose. Je peux toujours dire dans ma vie, si jamais je fais un livre, ça va être des vraies affaires, puis ça va plaire à du monde, ça va déplaire à d'autres personnes, puis d'attendre. Donc, je suis embarqué avec ça, puis je suis très bien avec ça. J'ai des vraies choses. Puis ça ne faut pas le faire à tout le monde. Puis ça, je comprends ça. Puis c'est normal. Puis, it is, comme on dit en anglais.
Pierre Gervais, est-ce que là, le lancement est au Centre Bell? Avant que ce soit arrangé au Centre Bell, est-ce que la direction du Canadien connaissait le contenu du livre?
Oui, effectivement. Okay. Quand j'ai contacté les dirigeants du Canadien, puis j'avais exprimé mon extension et ma demande de faire le lancement du livre au Centre Bell. Ils m'ont dit tout simplement, regarde, on n'a pas de problème avec ça, sauf qu'on aimerait voir le livre, le contenu du livre avant ça. Puis c'est normal d'ailleurs, parce que si jamais s'ils m'avaient approuvé le lancement du livre, après ça, je les aurais ramassés. Mais comme j'ai absolument rien contre le Canadien, au contraire, c'est des gens tellement de classe, tellement fins, tellement gentils. Ils m'ont approuvé le lancement au Centre Bell ce soir, à quelques pas de notre vestiaire, de mon vestiaire, qui a été ma vie pendant très longtemps. Je trouve ça vraiment, vraiment cool.
OK, merci. Bougez pas, Pierre Gervais. Je vais me tourner vers Mario Langlois. Salut, Mario.
Salut, Patrick.
As-tu souvenir d'un livre sur le sport au Québec qui était aussi candide, aussi plein de vérité?
Ben, j'ai souvenir de quelques livres. Faudrait que je fasse l'exercice, mais peut-être que la différence, Patrick, est qu'il est publié très, très tôt après la retraite du principal intéressé. Tu sais, la plupart du temps, les livres viennent sur le tard. Bon, je me souviens de L'ombre et de la lumière avec Georges Hébert Germain sur Guy Lafleur, je pense, avant qu'il revienne au jeu. Ça, c'était quand même assez frais. Ça fait que ça avait fait couler beaucoup d'encre. Philippe Quentin sur Serge Chavard, c'est longtemps après sa carrière. Alors que la biographie, c'est une erreur de dire la biographie, que la réflexion, que le regard de Pierre sur ce qu'il a vécu autour de lui dans le vestiaire du Canadien Poteau pendant 35 ans soit déjà mis en livre. Ça, c'est intéressant. Et pour les gens qui l'écoutent avec nous depuis le printemps passé, ils doivent pas tomber en bas de leur chaise non plus, parce que Pierre a une intégrité qui lui a permis de durer pendant 35 ans, et je pense que cette intégrité-là, c'est comme un peu le gardien du phare, c'est un peu le gardien. sans lui donner un statut qu'il n'a pas, mais je veux pas les standards du Canadien. Là, lui, il a vu le meilleur, il a vu le pire. Fait que je pense que quand tu as tout vu ça défiler pendant 35 ans, tu as beaucoup de data pour avoir une idée de ce qui est plus proche du meilleur ou de ce qui est plus proche du pire. Et de se livrer en toute candeur en ce sens, je trouve que c'est très... C'est tout à son honneur, parce que la langue de bois est très, très... C'est très souvent le cas, puis ben au moins, il y a de quoi. Mais en même temps, puis je veux pas m'étirer dans ma réponse, Patrick, là, mais je m'arrête là, c'est l'autre question. Parce qu'il y a d'autres éléments
continue,
qui sont mis en lumière.
Continue, Mario. Oui.
Mais prends sur Carey Price, par exemple. Tu sais, Carey Price, il y a beaucoup de gens qui ont une vision négative de Carey Price, tu sais, pendant toute sa carrière, puis jusqu'à la toute fin. Puis quand Pierre parle de Carey Price dans ce livre-là, ou quand il nous en a parlé en nombre, quand il dit que c'est le gars avec lequel il a eu le plus de liens, dont il s'est senti le plus proche, parce que tout comme lui, c'était le premier arrivé à l'aréna, puis le dernier parti, parce que tout le rituel qu'il devait subir, de la glace aux genoux, des traitements, des assouplissements, etc., juste pour aller garder le filet pendant un match, compte tenu de l'usure de son corps, c'était un rituel auquel il devait se soumettre. À travers ça, il y a un lien qui s'est créé entre les deux. Mais ça, aujourd'hui, ça fait pas la manchette, tu comprends, parce que... Mais tu vois ce que je veux dire?
Oui,
mais c'est un autre regard sur Carey Price. Alors, c'est le même homme qui offre le même nouveau regard sur d'autres situations, dont Dominique Ducharme et Marc Bergevin, si tu peux me servir de ça comme comparaison.
Vraiment, vraiment intéressant. Pierre Gervais, je me retourne encore vers vous. Vous étiez là, dans au cœur de la bête, au cœur de l'institution, dans le vestiaire. Le Canadien de Montréal, Pierre, là, il y a beaucoup de spéculations. C'est un sport national que de parler du Canadien puis de se dire « Ah, il se passe telle affaire ». Il y a des fois où vous deviez entendre des choses, des fans puis des journalistes, puis vous deviez rire dans votre barbe parce qu'on était dans le champ.
Mais écoute, Patrick, c'est sûr. Là. C'est sûr. Puis c'est pour ça que moi, je me suis tenu à des choses que moi, j'ai entendues, que j'ai vues personnellement. Écoute, il y a plein de choses que j'aurais pu parler. Mm. Et regarde, moi, là, ce que j'ai pas entendu, pas vu moi-même, là, je m'en mêle pas, là.
Okay.
D'ailleurs, dans le livre, là, tous les trucs personnels, là, je vais compter, as-tu deux minutes?
Oui, go.
Je vais compter une anecdote. Une anecdote qui, j'ai jamais raconté, même pas à la maison. À un moment donné, un de mes adjoints vient me voir puis il dit, c'est après quand entraînement. Il me dit, il faut que j'achète des petites cuillères. Tu sais, des cuillères, des vraies cuillères, là, en métal, ça. Fait que je dis, ah oui, t'es sérieux, déjà? Il dit, oui. Ben, je dis, ça fait 30 jours qu'on opère, puis il dit, je comprends pas. Puis, en tout cas, anyway, ça reste là-dessus. Ben, je vais acheter 3-4 douzaines de petites cuillères. Fait que, il part acheter 3-4 douzaines de petites cuillères. Un mois et demi plus tard, 2 mois maximum, il revient. Puis il me dit, Pierre, faut que j'aille racheter des petites cuillères. Fait que là, je dis, ben oui, alors, c'est pas les joueurs d'hockey sur millionnaire qui volent les cuillères, qui peu importe. Fait que là, je comprends la peau, mais j'ai dit, Charles, ouais, ça prend pas de bon sens. Il m'a dit, écoute, je le sais, là, mais c'est comme ça.
Les gars, attends, Pierre, les gars volaient les cuillères?
Non.
Là, okay.
On manquait de petites cuillères.
Okay.
Les petites cuillères disparaissaient. Fait que ça pour dire qu'à un moment donné, mon adjoint a vu l'instructeur chef qui est allé dans le frigo, s'est pris un yogourt, qui a pris une petite cuillère, qui est allé vers son bureau. Fait que là, Richard, ça a comme allumé une lumière. Alors, lorsque l'instructeur chef en question est parti pour la patinoire, pour l'entraînement, mon adjoint est allé dans son bureau, puis il a vu la cuillère qui était plantée dans son gobelet de Hugo Ovid dans sa poubelle. fait que là, lui, ça faisait comme à tous les jours, il sacrait ça dans sa poubelle, la cuillère puis le gobelet. Fait que, tu sais, des choses de même, là. Je suis pas allé là, puis j'ai pas nommé de nom, puis je suis rendu tellement facile. Mais, tu sais, c'est une histoire quand même invraisemblable.
Ça fait partie des anecdotes non racontées puis non dévoilées anonymement, là.
Exactement.
Ben Pierre, j'ai vraiment hâte de lire votre livre et puis on vous souhaite un excellent lancement. Merci d'avoir été avec nous. Puis dès 20h, les amateurs de sport en direct du Centre Bell pour le lancement du livre de Pierre Gervais avec Mario Langlois.
Merci beaucoup.
Merci, messieurs.
Merci, Patrick. Et on parlera de d'autres choses, évidemment, d'actualité. Puis on enregistre des bonnes portions d'émission ici ce soir. Donc, je serai de retour en studio dès 20h. Merci beaucoup.
Très bien. Bonne soirée à vous deux. À vous
bye
deux.
Bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le lourd secret de Chafika Vaitiana-Tassarma, c'est le titre d'un article de la journaliste Caroline Touzin dans la presse d'aujourd'hui. Qui est Chafika Vaitiana-Tassarma? Ben, elle a 23 ans, elle est étudiante à la maîtrise en didactique des mathématiques. Sa famille est d'origine sri-lankaise. Elle a été candidate aussi aux élections trois fois ces dernières années, au provincial, au fédéral, pour le Bloc québécois et pour Québec solidaire. Quel est son lourd secret? Ben, elle a été victime d'agressions sexuelles dans son enfance et dans son adolescence, des sévices qui l'empêchaient d'avancer. On se doute à quel point ça peut être traumatisant. Et elle a pu panser ses blessures en grande partie grâce à la Fondation Marie-Vincent qui aide les enfants victimes d'agressions sexuelles. Chafika Vaitiana-Tassarma est en studio. Bonjour à vous.
Bonjour, M. Lagacé.
C'est un texte très touchant dans lequel vous avez témoigné aujourd'hui. D'abord, commençons par le contexte. Parlez-nous de vous, parlez-nous de vos parents. Vos parents sont nés au Sri Lanka, sont arrivés au Québec. En quelle année?
Ma mère elle immigrait au Québec pour poursuivre des études supérieures en mathématiques. Donc les mathématiques, c'est une histoire d'amour dans notre famille. Puis au passage, elle a décidé de se marier la famille a décidé qu'elle se marie avec mon père d'un mariage arrangé. Donc c'est dans ce contexte-là que mes parents ont immigré, puis je suis née dans tout ça. Ça n'a pas été facile justement parce qu'elle a pas, elle savait pas que mon père, faut savoir que mon père est un diplôme d'études secondaires 5, l'équivalent au Québec, alcoolique, endetté. C'était pas un beau mélange, on va dire, pour ma mère qui avait des ambitions différentes, on peut dire ça comme ça. Donc l'enfance a été très difficile, puis ma mère, si c'est pas elle qui pouvait vivre ce rêve-là d'éducation, c'est de me le transmettre. Donc on s'est beaucoup rapprochés à travers l'éducation, l'enseignement des mathématiques, puis malgré tout ce qu'elle a pu m'offrir, il y a quand même eu des enjeux de santé mentale assez lourds qui ont bousculé mon enfance.
Et ce qu'on comprend de l'article de la presse, c'est que, bon, la famille tente de se maintenir à flot. Le père est assez absent. Votre mère compense ce qu'il ne rapporte pas à la maison. Il boit beaucoup. Et là, vous passez beaucoup de temps au temple hindou de votre communauté. Et c'est là que surviennent les premières agressions.
Exactement. Donc, dans le fond, ça a été très difficile au début parce que, tu sais, je parlais pas juste d'une agression. Il y en a eu deux, trois. Puis à un moment donné, comme petite fille, puis plus tard, tu te poses la question, est-ce que c'est moi le problème peut-être? Puis ça a été très difficile à comprendre au début. Puis la manière que j'ai pu m'expliquer, trouver une réponse à ces difficultés-là, c'est l'éducation sexuelle. Contrairement à la religion catholique, on pouvait se marier. Donc ces hommes étaient mariés, avaient une conjointe. Parce que c'était
prêtres.
Oui, exactement. Ouais. C'était des prêtres qui pouvaient se marier. Puis malgré ça, ils ont ressenti le besoin d'aller assouvir leurs besoins primitifs sexuels chez une jeune femme. Puis c'est vraiment le tabou entourant la sexualité qui, je trouve, qui a pesé lourd, qui a causé justement ces agressions-là. Donc, ça ressemble un peu à ça, l'explication que j'ai pu me donner pour m'en sortir un peu, avoir un regard différent par rapport à ça. Puis comme je l'ai mentionné, c'est pas juste dans la religion hindouiste que ça se passe. C'est réputé justement dans la religion catholique notamment.
Bien sûr, je veux dire, la religion catholique, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, ça a été des usines à pédophiles qu'on a couvert. Je pense pas que c'est pas uniquement dans la communauté hindoue, faut le dire. Mais il y avait, si je comprends bien, il y a quand même un tabou supplémentaire dans votre communauté. Et ça, est-ce que je me trompe ou ça vous a peut-être empêché d'en parler plus tôt?
Exactement. Ça m'a empêché d'en parler plus tôt. Je pense que j'en aurais pas parlé si j'avais pas ressenti des effets physiques dans ma productivité, on va dire ça comme ça.
Physique.
Oui, exactement. Je me rappelle, j'étais au cégep, je faisais mes cours, j'arrivais au cours de chimie, c'était écrit justement dans l'article de Madame Touzin. Je pleurais, mais je pleurais pas parce que la chimie me rendait émotive. Ouais. Je pleurais parce que je n'en pouvais plus de porter ce poids-là de mon existence. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui roulait pas du tout. Puis c'est la mère d'une de mes amies du secondaire avec qui j'ai gardé un lien, qui devait peut-être sentir cette intuition un peu maternelle que quelque chose roulait pas chez nous. Puis c'est grâce à elle que j'ai pu aller chercher de l'aide. Elle m'a encouragée à aller en parler à une travailleuse sociale du cégep.
Mais comment s'est initiée la conversation? Vous aviez 17 ans à ce moment-là avec la mère d'une de vos amies. Comment ça vient sur le tapis?
Et c'est une excellente question. En fait, nous, chez nous, on pose pas la question, ça va. Donc, avant, ben là,
okay,
oui.
On demande pas ça.
On demande pas ça. Tu sais, il y a pas vraiment. Tu passes au travers les difficultés que tu peux vivre. Puis, cette mère-là, à un moment donné, on parlait un peu de comment aller à l'école, etc. Puis, elle m'a juste regardé dans les yeux, puis elle m'a demandé comment ça va. Puis cette question est tellement venue me chercher profondément que j'ai pas pu dire autre chose que pleurer, complètement pleurer, à quel point c'était la première personne à qui j'ai raconté tout mon bagage de mon enfance, de ma famille. Ça a complètement justement changé de direction à partir de ce moment-là, là, de parler de santé mentale aussi. Là.
Parce que je le précise, il y a eu les premières agressions à l'enfance, puis après ça, toujours au temple, il y a un autre... Quel est le mot pour les prêtres dans la religion?
Un brahman.
Un brahman. Donc, un autre brahman et un autre homme non identifié qui vous ont agressé adolescente. Mm-hmm. Là, c'est la première fois que vous en parlez à la mère de cette amie. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous libérer de ça une première fois?
C'est pas à ce moment-là que je l'ai senti. Okay. C'est vraiment quand j'ai commencé mes séances de thérapie que là, j'ai senti que c'était libérateur. Mettre le doigt sur pourquoi c'est difficile quand même quand t'arrives à un point physique où t'es plus capable de t'exprimer, tout te rend triste, tout te rend malheureuse, puis t'essaies, tu prends ta petite marche santé mentale, tu ris, tu souris, tu fais du sport, mais c'est plus suffisant, c'est en parler, c'est plus juste la qualité de vie qui compte là.
Et c'est comme ça que vous rencontrez la Fondation Marie-Vincent, là, qui s'occupe des enfants qui ont subi des agressions sexuelles, des adolescents aussi. C'est un travail très important que ces gens-là font. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez fait 2 ans de thérapie.
En fait, je tiens à préciser que la Fondation Marie-Vincent fait un travail exceptionnel, mais faut qu'on soit référé pour avoir accès à ces soins-là. Puis, justement, en parlant à la travailleuse sociale de mon cégep, elle a pu me... il fallait pas oublier que ma mère était pas au courant à l'époque, à mes 17-18 ans. Donc, j'avais pas les moyens de me payer de la thérapie. Donc, j'ai pu... il y a l'organisation qui s'appelle IVAC qui justement aide les victimes à avoir des soins notamment de santé mentale. Puis c'est grâce à ça, eux, ils m'ont référé à la Fondation Marie-Vincent. Puis, je ne peux pas assez... parler de l'importance d'avoir une thérapie spécialisée sur les agressions sexuelles. Quand on parle d'agression sexuelle, c'est pas juste la sexualité, c'est le lien de confiance que tu as avec cette personne-là, c'est la manière que tu t'interagis avec les autres. Quand j'étais jeune, je me rappelais, j'avais de la difficulté à avoir des profs masculins, même s'ils étaient super, bienveillants. Je ne pouvais pas être dans la même pièce qu'eux. Ça m'angoissait. Marcher dans la rue, croiser un homme. C'est ce genre d'effet, de petits comportements-là que tu peux pas vraiment expliquer, puis qui teinte complètement ta manière de tisser des liens avec les gens. Puis avoir une thérapie des gens qui sont formés spécialement pour ça, ça change complètement. Surtout quand on parle d'enfance puis d'adolescence, c'est des moments charnières quand même dans la vie de quelqu'un.
Mais au début de la thérapie, je veux dire, il y a quand même un lien de confiance à établir avec la personne qui est thérapeute. Ouais. C'est pas évident le début là d'une thérapie semblable.
Non, c'est pas évident. Puis je peux pas assez remercier la patience de ma psychothérapeute. De ma psychologue à l'époque, en fait, je ne la regardais pas dans les yeux. Je fuyais du regard. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je ne comprenais pas. Je savais pas comment m'exprimer. Je sais pas pourquoi j'étais là. C'était difficile. J'étais tout le temps crispée. J'avais pas envie d'être là. Puis, 52 séances plus tard, j'étais capable de mettre des mots sur mes émotions. J'étais capable de m'exprimer. Puis, il y a une chose que j'oublierai jamais, ma dernière séance, justement, par rapport à la première, je fuyais tout, je voulais pas être là. La dernière séance, je sors de la Fondation Marie-Vincent, je lève ma tête, je vois autour de moi qu'est-ce qui se passe, puis je vois une fille, justement, rentrer. On a eu un regard. Moi, je finissais ma thérapie, j'allais plus revenir à la Fondation Marie-Vincent, j'avais, entre guillemets, guéri. Puis, je voyais cette fille qui rentrait, un peu le regard perdu, puis on a eu un moment de complicité de « on va s'en sortir ». J'étais comme toi à ce moment-là, puis aujourd'hui, je suis capable de pas me laisser définir par ce moment-là un peu plus difficile de ma vie. Donc, cette fondation-là, ça a complètement changé ma manière de voir les choses. Puis justement, le lien que tu crées avec ta psychologue, c'est quelqu'un qui est patient. Puis surtout, dans mon cas en particulier, on n'a pas les mêmes réalités du tout.
Seriez-vous où vous êtes aujourd'hui, étudiante à la maîtrise, trois fois candidate aux élections, n'eût été de cette thérapie-là?
Non. J'aurais pas été la même personne du tout. Je pense que j'aurais encore de la difficulté à fonctionner. C'est un cadeau de la vie que j'ai eu grâce à cette fondation-là, mais aussi les personnes qui étaient qualifiées, qui étaient là pour me soutenir. Parce que c'est difficile, l'enfance, l'adolescence, quand tu pars mal. Mm-hmm. Puis si c'est vraiment un cadeau de la vie de pouvoir se permettre de trouver une manière de mettre des pansements sur ces mots-là, puis de regarder la vie avec un peu plus d'espoir, de sérénité, puis de goûter au bonheur, on va dire ça comme ça.
C'est bien dit, c'est bien dit. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Garraud, qui était à côté de vous, qui est de la Fondation Marie-Vincent. Stéphanie Garraud, salut.
Bonjour.
J'ai déjà fait un papier sur les listes d'attente qui étaient imposantes à Marie-Vincent. C'était il y a peut-être, je me souviens pas, un an et demi environ. Là. Où on en est maintenant?
Ben, je dirais que ça va mieux. On a encore malheureusement des jeunes qui sont en attente, mais il y a un gros travail qui a été fait, autant, surtout, je dirais, de l'équipe clinique. Là, on a eu une révision de la trajectoire, on offre des services d'entrée en urgence plus pour les familles, pour supporter quand il y a le dévoilement. Mais il y a eu aussi beaucoup d'argent, les donateurs privés, les bailleurs de fonds publics, les gouvernements répondus présents. Donc, on est rendu à 18 mois d'attente. On avait 2 ans. Là, donc, c'est gros 6 mois dans la vie d'un enfant. Donc, on est très heureux de pouvoir être rendu à 18 mois, mais c'est surtout que le travail continue.
Qu'est-ce qui vous manquerait à la Fondation Marie-Vincent pour que les listes d'attente, disons, sans dire qu'elles deviennent inexistantes, mais soient encore, disons, plus courte?
Ben, c'est d'une question de temps, d'argent, de personnel. Là, je dirais que le travail qui a été fait dans les 2 dernières années, on a doublé l'équipe. Là. Donc ça a eu un impact majeur. Comme je parlais là, la révision de la trajectoire de service, on offre des groupes aussi, des groupes de thérapie. Donc on peut voir plus qu'un enfant à la fois. Puis ça, c'est bénéfique pour les jeunes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont vécu cette réalité-là.
Spontanément, Stéphanie Garraud, j'aurais pensé que des thérapies si sensibles, c'était mieux de faire ça en individuel plutôt qu'en groupe.
Ben, on doit évaluer les enfants. Donc, okay. Quand ils font une demande auprès de nous, il y a une évaluation qui est faite par nos professionnels. Puis si le jeune peut bien, on pense qu'il va bien ou qu'elle va bien répondre à une thérapie de groupe, alors on lui offre. C'est pas obligatoire. Les gens, ils ont le choix de la thérapie individuelle, de groupe. Mais ce qu'on se rend compte, là, on a fait des 6, 8 et des 9, 12 ans, là. Et il y a des liens qui se sont bâtis entre les jeunes, parce que justement, ça brise l'isolement. Mais aussi, nos cliniciennes, elles reçoivent quand même des récits en groupe, mais elles peuvent s'inspirer l'une de l'autre, elles peuvent s'épauler. Donc, pour nous, la thérapie de groupe, c'est un bilan super positif. Fait que ce qu'il nous faut, c'est du temps, puis c'est encore de la compétence.
Stéphanie, je sais que vous vous dévouez pour la Fondation Marie-Vincent, comme tous les gens qui travaillent là, mais le sujet, votre pain quotidien, c'est des enfants agressés. Est-ce que c'est lourd, des fois?
Bien, je pense que potentiellement pour les intervenantes, oui, parce que c'est elles qui reçoivent les témoignages. Nous, notre travail au niveau de la direction, c'est de les accompagner, de les entourer. Moi, comme directrice générale, quand je suis assise dans mon bureau puis que j'entends des enfants rire, puis que je les vois dans le corridor, ben je pense qu'ils sont rendus à bonne place. Fait que c'est pas lourd du tout, c'est l'espoir. Ils sont rendus chez nous, on s'en occupe, puis après ça va aller mieux. Puis quand j'écoute Shofika, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis qu'il y a un impact réel du travail qui est fait par notre équipe.
J'aime cette image-là des enfants qui rient dans les locaux de Marie-Vincent. OK, je reviens à vous, Shofika. Vos agresseurs, ils n'ont jamais été arrêtés?
Non, parce que j'ai pas eu le courage d'en parler. En fait, mon agresseur est décédé. Celui que ça a duré un bon moment est décédé il y a 2 ans. Donc, ça a été assez... ça a été difficile, on va dire ça comme ça.
Comment vous allez aujourd'hui?
Je vais bien. J'ai été très bien entourée. Après la thérapie, j'ai pu en parler à des proches. J'ai toujours été transparente aussi. Je pense que c'est lourd de pas parler de santé mentale, de briser ce tabou-là. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'être en vie, d'avoir cet amour-là, cette passion-là. Puis, je souhaite juste pouvoir contribuer à réduire ce genre de tabou, d'enjeu que d'autres enfants peuvent vivre et malheureusement vivront, en attendant qu'on ait des solutions plus à long terme pour permettre aux jeunes de pas être victimes de ce genre d'actes-là. Parce que, comme on l'a mentionné, le temps, c'est difficile. Puis plus que les gens y attendent avant d'aller chercher de l'aide, plus que c'est difficile pour l'enfant aussi, là.
Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec les auditeurs de l'émission. C'est très touchant, très constructif. Merci beaucoup.
Merci, M. Lagacé.
C'était Shafika Vatiana-Tassarma et Stéphanie Garraud de la Fondation Marie-Vincent. Juste en guise de conclusion, là, c'est pas la première fois que je parle de la Fondation Marie-Vincent qui offre des services de thérapie aux enfants agressés. Je fais des entrevues à ce micro, j'ai fait des chroniques dans la presse. Et tout ça, là, en même temps qu'une prise de conscience sur le fléau des agressions sexuelles, il y a des esprits à soigner. La Fondation Marie-Vincent fait ça. Je le fais pas souvent, mais là, je le fais. Écoutez, ils sont toujours en recherche de financement chez Marie-Vincent. Si vous le pouvez, si ça vous tente, n'hésitez pas, faites un don, ils sont faciles à trouver sur Internet. C'est de l'argent bien investi. Ils aident concrètement des personnes, comme vous l'avez entendu, comme Shafika. Philippe, t'as pas lu le livre de Pierre Gervais, t'as lu, comme nous tous, des extraits dans les médias, puis t'es vraiment un peu sous le choc.
Oui, tout à fait, parce que je m'attendais pas du tout à ce type de livre-là. Je pensais vraiment que ce serait un regroupement d'anecdotes amusantes, des trucs de crème à barbe dans les souliers, puis regarde, le gars s'en est retiré, puis tout son bas est à plein de crème à barbe. Tu sais, les vieux trucs de hockey, pas du tout. C'est pas un très long livre. Souvent, là, je suis en train de le survoler. On aimerait en savoir encore davantage. Mais Pierre Gervais, quand il dit « j'aurais pu être plus mean », c'est ce qu'il vient de dire à ton micro il y a quelques instants, je peux te dire qu'il ne tourne pas les coins ronds. Là. Il dit, il parle par exemple, un court extrait là, à propos de Max Pacioretty. « Je lui cherche des amis dans le vestiaire, il m'est difficile de lui en trouver. » Et là, un petit peu plus tard, « c'est un gars comme ça, une mauvaise personne, tout le staff était content de le voir quitter. » Hey, on parle quand même d'un ancien capitaine du Canadien, un joueur qui est extrêmement populaire.
D'il y a pas si longtemps.
Oui, c'est ça. Alors je vais employer une expression en anglais qu'on utilise beaucoup dans le sport. It's in your face. C'est vraiment
dans ta face.
Et à propos de Marc Bergevin aussi, tu sais, il nous dit essentiellement que Marc Bergevin était fait pour être adjoint au directeur général. Il dit il y aurait eu besoin d'un mentor pour apprendre à gérer du personnel, des budgets, pour apprendre à parler aux gens et à gérer sa notoriété. Alors, c'est très, très dur comme constat de la part de Pierre Gervais, qui est là depuis très longtemps. J'ai beaucoup aimé ce que Mario Langlois vient de dire, là, quand Mario dit... Il a vu le mieux et le pire du Canadien en 35 ans. Et ça, c'est très, très juste. Donc, lui, il se sent, Pierre Gervais, très certainement autorisé à raconter tout ça. Tu posais la question pourquoi le Canadien permet que ce livre-là sorte au Centre Bell. Ben, dans les pages que j'ai parcourues, là, il est quand même assez logieux envers la nouvelle direction, Martin Saint-Louis, Jeff Corton et Kent Hughes. Mais que le Canadien autorise ça, c'est quand même significatif, notamment avec ce qui est dit à propos de l'ancien directeur général. C'est très frais, là. Marc Bergevin était directeur général de cette équipe-là il y a très peu de temps. Ça donne une idée aussi du souvenir qu'il a laissé. Alors, moi, je suis étonné. J'ai l'impression que Pierre Gervais ne se fera pas que des amis avec ça. C'est sûr, là, ça va beaucoup, beaucoup jaser dans le milieu du hockey, qui est un milieu très, très conservateur, où une règle existe. Là. Tu sais, ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Oups, là, on ouvre pas mal la porte dans le vestiaire. Je veux saluer aussi le travail dans tout ça de mon collègue Mathias Brulet. Là. Mathias, a fait une super job, il faut le souligner.
Parfait. OK, je veux qu'on parle de la Coupe du monde de soccer. Là, c'est commencé, l'action est commencée après, Philippe, des années de controverses sur la gestation du plus grand tournoi de soccer au monde. Mais là, on se pose la même question qu'à toutes les fois où des grands événements comme ça se déroulent dans des dictatures. Tu sais, tu peux pas faire abstraction du contexte social du pays dans lequel ça se déroule.
Ouais, c'est ça. Puis tu te poses la question, est-ce qu'on a le droit de savourer ça, finalement, cette Coupe du monde-là? Est-ce qu'on a le droit de s'enthousiasmer pour les matchs puis dire, hey, waouh, le Canada joue mercredi contre la Belgique, je veux pas rater ça? Ou on dit plutôt, ben non, ça n'a pas de bon sens que ça soit là, ça fait qu'on le boycotte un peu en se disant, on va regarder ça du coin de l'œil. C'est un débat éthique. Je pense que tout le monde l'a eu avant les Jeux olympiques d'hiver à Pékin aussi. Donc, c'est de plus en plus fréquent parce que beaucoup de pays occidentaux ne veulent plus accueillir de ces grands événements-là. Tu sais, beaucoup de gens demandaient, par exemple, pourquoi c'est Pékin qui a eu les derniers Jeux olympiques d'hiver, Patrick? Pour une raison très simple, c'est que tous les pays d'Europe et Québec se sont désistés un après l'autre, certains sur décision du gouvernement, certains à la suite de référendums qui ont été tenus dans les villes, parce qu'ils ne voulaient pas assumer les coûts de sécurité, tout le côté de l'environnement aussi. Est-ce qu'on construit une piste de bobsleigh dans une montagne, puis on coupe des arbres et tout, ça choque les gens. On s'est retrouvés pour Pékin. Il y avait deux villes qui étaient en liste. C'était Almaty au Kazakhstan. Hein, et le Kazakhstan, là, en matière de droits de la personne, disons qu'ils sont pas placés pour donner des leçons à qui que ce soit. Et Pékin. En Chine. Alors, évidemment, le Comité olympique a dit, bon, tu sais, on va y aller avec les, à Pékin aussi qui vont livrer les Jeux. Et moi, tu sais, je regarde aujourd'hui ce qui est en train de se produire. Je veux juste raconter une anecdote là, qui s'est produite aujourd'hui qui est absolument invraisemblable. Il y a un journaliste de soccer extrêmement connu aux États-Unis, Pat, il s'appelle Grant Wall. Grant Wall a travaillé longtemps pour Sports Illustrated. Il est plus à son compte maintenant. Il a près de 900 000 abonnés sur Twitter. Alors, il est au Qatar pour couvrir la Coupe du Monde et il décide de se présenter aujourd'hui pour les matchs avec un T-shirt, avec un ballon de soccer, mais tout autour du ballon de soccer, c'est le drapeau arc-en-ciel.
Et là, drapeau LGBTQ.
Voilà, exactement. Alors là, il se fait intercepter à l'entrée par des gens qui décident, des gardes de sécurité, qui l'amènent dans une pièce puis qui lui disent, regarde, faut que t'enlèves ton T-shirt, faut que tu le changes, c'est un message politique, puis c'est pas autorisé. Lui dit, regardez, il n'y en a absolument pas question, c'est un symbole de la communauté LGBTQ, je suis en appui, je vais porter le T-shirt que je veux. Ça a toujours été acquis qu'on pourrait porter les vêtements qu'on voulait. La tension monte un peu, là, il y a un des gardes de sécurité qui dit non, 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 il lui arrache son téléphone des mains, parce qu'entre-temps, Grant Wall, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé rapidement sur Twitter, il a dit, je viens d'être arrêté par des gardes. Tout ça, toujours est-il, dure une demi-heure, puis il se fait engueuler, puis un petit peu intimidé, puis là, finalement, l'histoire se règle une demi-heure après, comme un supérieur qui a dû être avisé, qui a dit non, non, OK, laissez-le aller. Mais ça s'est passé aujourd'hui. Donc, le journaliste, là, il a été arrêté pendant une demi-heure de temps en entrant dans le stade pour aller couvrir le match entre le Pays de Galles et les États-Unis. Alors, c'est ça, le Qatar. Et tu sais, ça rappelle ce qui s'est produit la semaine dernière avec les journalistes danois, là, oui. Que tu te souviens.
Ils étaient en train de filmer un rond-point, puis ils se sont fait dire d'arrêter de filmer.
Exactement, exactement. Alors, donc, ça pose toute cette question-là. Cela dit, tu sais, ça va faire comme à Pékin, là. Tu sais, tout à coup, là, les gens, on a tous écouté les Jeux olympiques, puis les athlètes québécois ont brillé, puis on était fiers d'eux, puis on a regardé les compétitions, puis on oublie un peu au fil de la compétition la trame de fond politique. Mais quand je regarde ça, je me dis, ça devrait pas, les grands événements devraient pas avoir lieu dans ces pays-là. Mais ce qui peut avoir un avantage, et j'en vois un, c'est que ça met en lumière c'est quoi ces pays-là. Prends le Qatar. Le Qatar, avec les travailleurs étrangers qui ont bâti les stades, là, on en parle à peu près partout dans le monde depuis qu'ils ont eu la Coupe du Monde, mais ça existait bien avant.
Philippe, t'as tellement raison. Moi, avant ces histoires de stades puis de conditions épouvantables pour les travailleurs migrants, je connaissais pas les conditions de vie, c'était quoi, comment ça se passait dans la vie au Qatar. À cause de ça, ça a mis une grosse loupe sur le côté épouvantable de la vie en société.
Exactement. Ils ont été obligés de faire de modestes changements. Ouais. Là. Ça fait qu'on en a parlé. Prends les Ouïghours avec la Chine. Depuis la fin des Jeux olympiques de Pékin...
On en parle moins.
Ben, on n'en parle plus. c'est essentiellement plus, alors que c'était un gros sujet de conversation. Alors, au moins, la tenue des Jeux dans une dictature braque les projecteurs sur ce pays-là à tous les niveaux. Et on voit le côté très sombre de ce régime-là.
Et Philippe, on va finir là-dessus, mais quand il y a la nouvelle qui est sortie la semaine passée, Budweiser paye 75 millions, je pense, pour les droits de s'afficher pendant la Coupe du Monde et aussi de vendre, d'être le distributeur officiel de bière dans les stades. Mais là, deux jours avant le début, finalement, le Budweiser ne peut pas vendre de bière. T'sais, moi, je trouve que, honnêtement, je me déchire même pas la chemise. Sais-tu pourquoi? Quand tu fais affaire avec des régimes dictatoriaux où il n'y a pas de règles de droit, vis avec les conséquences.
Viens pas te plaindre après.
Tu veux faire du car surfing? Fais du car surfing. Ça se peut que tu tombes. Tu veux faire de la business avec le Qatar? Ça va finir comme ça. Aux États-Unis, au Canada, en Europe, tu n'auras pas ces problèmes-là. Quand tu donnes de l'argent à des dictateurs, ben c'est comme ça que c'est fini.
Voilà. Bien dit.
Merci, Philippe.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Jean-François Nadeau est là pour sa chronique hebdomadaire. Salut Jean-François.
Salut.
On va parler de mines, on va parler de claims, on va parler de se faire rouler dans la farine ou j'allais dire dans les débris de minerais. C'était ta chronique du Devoir ce matin. D'abord, on va commencer avec la base. C'est quoi un claim?
Ben, un claim, c'est facile. Vous pouvez, n'importe qui peut en acheter un, vous présenter au gouvernement, puis vous dites, je veux avoir un droit sur le sous-sol. Il peut y avoir des gens qui sont là sur un espace donné. Un claim au Québec, en gros, c'est l'équivalent de 16 hectares, soit l'équivalent de 22 terrains de football international, de soccer. Ce qui fait en sorte que vous avez, pendant 2 ans, pour quelques dizaines de dollars, vous avez la possibilité d'explorer le sous-sol. Alors, c'est en augmentation partout au Québec. Au cours des 2 dernières années, entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2022, en Estrie, 63,4% de plus de claims. Dans le Bas-Saint-Laurent, 85,7% de plus de claims. En Gaspésie, 139% de plus de claims. L'industrie minière dit, oui, c'est vrai que ça a augmenté ces 2 dernières années, mais sur une période de 10 ans, ça a plutôt diminué. Ça suit le cours des marchés des métaux.
Ah, plus la valeur augmente, plus il y a d'intérêt à exploiter des claims.
Moi, ça m'a toujours intéressé, puis c'est ce que je raconte dans ma chronique ce matin, parce que mon grand-père a perdu sa chemise, puis quasiment ses bras puis ses jambes dans cet univers-là. Il avait, lui, profité un peu, en tout cas tenté de profiter d'un claim d'un beau-frère, je pense, qui était vaguement géologue. Il s'était retrouvé à travailler dans une mine de quartz à la fin des années 50, au début des années 60, en espérant, pour vous situer, là, pour savoir exactement où c'est, comme la plupart des mines, c'est facile à situer. Dans son cas, c'était à Bulwer, quelque part entre Eaton Corner puis Birchton. Perdu, puis évidemment, il a laissé sa santé là-dedans, l'eau rentrait là-dedans. Moi, je suis allé voir ça plusieurs fois. C'est un immense trou qui est rempli maintenant d'eau. La machinerie est restée là et c'est le cas, bien sûr, de beaucoup, beaucoup de sites miniers qui sont disséminés un peu partout au Québec.
C'est ça qu'on appelle, Jean-François, des sites orphelins?
Oui. En termes de sites miniers d'exploration, parce que quand vous avez un claim, c'est pas tous les claims qui vont être utilisés. Il n'y a pas tout à fait une mine par année qui pousse, si je peux dire, au Québec. Il y a une vingtaine de grosses mines en activité en ce moment, mais il y a des efforts miniers qui se produisent chaque année, donc on explore. Les efforts d'exploration portent pas toujours fruit, mais ça laisse des traces. Par exemple, si vous êtes en Gaspésie, il y a des gens qui ont cherché du pétrole. Si vous parlez à des gens qui font du skidoo en Gaspésie, de temps en temps, il y en a qui disent, bon, t'es arrivé à une place, puis putain, la neige est toute noire, puis il reste des... Parce qu'il y a un trou, il reste des traces, puis ça afflue, là. Il y a des fuites qui datent des fois de dizaines et de dizaines d'années qui n'ont pas été colmatées. Puis là, comment voulez-vous arranger ça? Donc, il y a 223 sites miniers connus au Québec d'exploration qui sont abandonnés, puis 177 sites d'exploitation qui ont été abandonnés. Tout ça, selon les estimés du gouvernement du Québec, coûterait à peu près, en 2019, en tout cas, là, ça augmente chaque année, 1,2 milliard de dollars pour être réhabilité. Seulement, au cours de l'année dernière, On a tenté d'en régler juste deux cas de mines, puis on s'est rendu compte que les coûts avaient explosé par rapport à ce qui était projeté pour 2 mines, 28,2 millions de dollars.
Mais tout ça, OK, corrige-moi si je me trompe, t'as des exploitants privés qui fouillent quand ils réalisent que on est rendu au bout de la vie utile ou qu'il n'y a pas d'argent à faire là. On laisse ça à l'État, on s'en va, puis c'est toi et moi qui payons.
Ben, c'est un peu comme au 19e siècle, hein? C'est-à-dire qu'on nationalise les déficits, puis on privatise les profits. On a toujours l'impression, dans les vieux films de western, le Klondike, la recherche sur l'or, le Far West, le Mid du Far West, on a toujours l'impression que c'est loin, 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 loin d'ici. Mais ça a existé ici aussi. À Chartierville, le ruisseau Mining, si vous allez là l'été, il y a encore des gens avec des pannes qui viennent d'un peu partout au Québec, puis qui cherchent de l'or. Il y a eu des mines là. En Beauce, la rivière Gilbert, à Saint-Simon-les-Mines, c'est la même affaire. Puis évidemment, ça n'a pas été des lieux énormes, mais il y a eu des centaines de personnes qui ont migré là au 19e siècle.
Pour faire fortune.
Pour faire fortune. Puis ben Val-d'Or, qui est un cas, bien sûr, qui a réussi. Je reviens au cas de ces mines-là qui sont à traiter, mais avec de l'argent public, bien sûr. On a un exemple à Yellowknife. Hein, Yellowknife, c'est pas au Québec, mais des mines comme ça, il y en a. Il y a une mine d'or qui s'appelle la mine Giant, qui a été fermée en 2004, qui a été en exploitation pendant une cinquantaine d'années. On a sorti de là 7 millions d'onces troy d'or. C'est la mesure.
Une valeur, là,
c'est
ouais.
la valeur avec laquelle on mesure. C'est l'équivalent, là, si on compte en gros, de 12,5 milliards de dollars d'or qui est sorti de là. Là, le gouvernement fédéral estimait, le gouvernement canadien estimait jusqu'à l'année passée que ça allait coûter à peu près 1 milliard de dollars juste pour cette mine-là, la réhabiliter. La semaine dernière, on nous a dit que ça allait coûter 4,38 milliards de dollars. Parce que dans chaque mine, quand vous sortez un once d'or, c'est à peu près une tonne de produits de toutes sortes
de roches
que vous broyez. Puis là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a du mercure, il y a de l'arsenic, tout ça. Puis vous le laissez en liberté dans la nature. Faites ça pour des dizaines d'années, puis imaginez le résultat.
Mais Jean-François, c'est un modèle d'affaires fantastique.
Fantastique.
Parce que tu fais du cash, puis après ça, quand il faut nettoyer, ben c'est l'État qui va payer.
Ça s'appelle le capitalisme, mon ami. Ça marche depuis longtemps. C'est assez formidable. Donc, des mines d'or, comme la mine Giant, là, qui est à Yellowknife, on en a des comme ça au Québec. Puis les mines, ben, à un moment donné, là, à la surface, la portion la plus facile à réussir à exploiter, ben, à un moment donné, c'est plus difficile, puis on les abandonne, puis on passe à un autre appel. Merci.
Je pensais qu'il y avait une sorte de mécanisme où les exploitants de mines mettaient de l'argent dans un pot, puis quand il faut restaurer, on va prendre l'argent dans le pot, puis on va faire ça.
C'est trop simple, ça, apparemment. Et il y a aussi des perspectives d'avenir qui nous sourient, qui sont intéressantes. Par exemple, on apprenait, c'est CBC encore une fois qui sortait ça la semaine dernière, que maintenant que Ottawa a serré la vis aux sociétés d'État chinoises qui investissaient dans les mines à potentiel stratégique important, notamment pour l'industrie. Mm-hmm.
Les terres rares,
tout ce qui va donner lieu à des batteries électriques qui est en pleine croissance ces années-ci. Hein, on a une croissance inouïe. La croissance d'exploitation des métaux va plus vite que la croissance économique dans ces secteurs-là, ce qui est assez intéressant. Ben, les industries chinoises se sont tassées et là, on a des offres apparemment du Pentagone pour investir là-dedans de Washington. Ce qui est intéressant, c'est un mal pour un autre probablement. Et là, il y a quelque chose de plus intéressant, Patrick, qu'il faut signaler. La semaine dernière, s'est terminée en Jamaïque la réunion de l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, qui crée une société qui a été créée sous l'égide de l'ONU en 1994, qui réunit 168 pays aujourd'hui, 168 États, pas les États-Unis qui ont jamais voulu signer ça, qui est en train d'essayer de voir comment on pourrait légiférer pour aller forer dans les fonds marins. Alors, imaginez, on a déjà du mal à voir comment ça se passe sur Terre, comment réguler ces espaces-là. Là, on va aller dans un endroit où les États ont pas autorité.
Jean-François, t'es cynique. Là. L'océan va tout nettoyer ça, là.
Bien sûr, c'est dans l'eau. Donc
ça sera pas sale.
Puis c'est de l'eau salée. Dans des blessures, tout le monde sait que quand on a une blessure, on met ça dans l'eau salée, puis ça se guérit.
Même chose pour la Terre.
Évidemment.
Merci Jean-François.
Merci.
Toujours un plaisir et j'espère qu'il n'y aura pas de claim sur ton terrain personnel.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.